rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles, Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Carrefour de l'Europe saisi une fois n'est pas coutume par la folie du ballon rond qui s'étend de l'Atlantique jusqu'au fin fond de l'Ural, voire au-delà. L'euro n'est donc pas seulement une monnaie, c'est aussi une compétition de football qui vient de débuter et qui devrait connaître son apogée le 10 juillet avec la finale de l'Euro 2016. Le football est une invention anglaise apparue au 19e siècle qui, depuis, a essaimé partout dans le monde. Mais l'Europe reste le continent du foot à tel point que certains résument l'Euro 2016 d'une phrase « L'Euro, c'est la Coupe du Monde, moins le Brésil et l'Argentine ». De son vrai nom, le Championnat d'Europe des Nations de Football, il a connu lui aussi un élargissement. Il réunit cette année 24 équipes, 8 de plus que lors de la dernière édition. Le foot est-il un facteur de rapprochement des peuples européens? Et l'Euro 2016 sera-t-il une parenthèse joyeuse dans une Europe secouée par les crises et les menaces? Voilà quelques questions que nous allons aborder avec nos invités. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Votre dernier livre, il parle de sport, mais pas de foot. JO politique, JO pour évidemment Jeux Olympiques, politique au pluriel. Il est publié chez Erol, mais vous avez écrit un bouquin plus directement, c'est sur le foot récemment, l'an dernier.
Football et mondialisation, charmant Colin.
Et un autre qui s'appelle la
géopolitique du sport.
Là encore, chez Armand Colin. Simon Kuper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste au Financial Times. Vous aussi, vous avez écrit un livre sur le foot avec un titre, je dirais, très amusant. Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus de buts. Vous pensez à qui?
Il y en a beaucoup.
Il faudrait toute l'heure de l'émission pour tous les citer.
Exactement.
Ouais. En tout cas, il est paru aux éditions De Buck. Avec un peu de chance, nous serons en liaison avec William Gasparini, qui est professeur à l'Université de Strasbourg, qui a écrit lui aussi un livre qui s'appelle Le football des nations. Mais pour l'instant, il n'est pas avec nous. Et enfin, à nos côtés, Alexandre Valland. Bonjour Alexandre.
Bonjour Daniel.
Les auditeurs de RFI vous connaissent bien. Vous êtes le chef du service des sports de RFI. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire du foot, mais pourquoi ce jeu Simon Kuper est-il né en Angleterre?
Ça vient des élèves des grandes écoles public schools, les écoles pour les plus riches. Ils ont tous joué au foot avec beaucoup de violence, ils ont souvent utilisé les mains. Et au milieu du 19e siècle...
C'était pas du football, c'est du footbox, c'est ça?
Voilà, oui, un peu de rugby, un peu de foot. Et puis ils ont séparé les deux sports, le rugby et le foot. Ils ont écrit des règles pour le foot. Et puis nous étions une grande empire, vous savez. On a diffusé le foot partout, hein, partout dans le monde.
Alors ça veut dire que le foot, c'était en gros, il est né parce que la haute société s'ennuyait.
Oui, exactement. On avait besoin de quelque chose à faire, quelque chose assez violente. À l'époque, c'était important. Et puis, mais puis, c'était les ouvriers qui ont fait le foot professionnel. Toutes les grandes villes de foot en Angleterre, ce sont des villes ouvrières, Manchester, Liverpool, etc.
Et à quel moment le foot passe-t-il du monde de la haute société, entre guillemets, et à quel moment ce sport, ça devient un sport, devient-il populaire?
Vers la fin du 19e siècle, ce sont les profs, les ouvriers qui sont mieux que les amateurs. Et ils commencent à gagner toutes les compétitions, ils ont des stades pleins de gens qui paient pour voir le match, et puis les amateurs, ils perdent le terrain.
Vous êtes en train de dire qu'il y avait une lutte des classes entre la haute société et les classes populaires en Grande-Bretagne à travers le foot?
Oui, un peu, et puis la haute société a laissé le foot en disant « bon, c'est pour les ouvriers, on a autre chose à faire, comme le cricket, le tennis ».
Et le golf. Et le rugby. Oui. Pascal Boniface, alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut dire que l'Europe est le continent du football?
Oui, clairement. C'est vrai que le football a fait un beau voyage. Parce que, comme l'a dit Simon Kuper, il est parti quand même de l'élite un petit peu chic anglaise, qui ensuite a laissé le football aux classes ouvrières pour prendre le rugby. Rugby, sport de voyous joué par les gentlemen, alors que le football, c'est un sport de gentlemen joué par des voyous, selon la définition traditionnelle. Et puis le football est parti à la conquête du monde. C'est devenu le jeu universel. Donc ce qui était vraiment le choix du prince d'une petite élite est devenu un sport mondial qui se joue partout et qui, après quelques résistances, même maintenant, arrive finalement au Pakistan et en Inde, alors qu'il s'est déjà répandu partout. Et c'est vrai que on peut dire aujourd'hui que l'Europe reste la superpuissance, le continent puissance du football, avec effectivement le Brésil et l'Argentine. L'Uruguay est un peu plus une puissance historique qu'une puissance actuelle. Et que en matière de football, on n'est pas encore à la multipolarisation. On est plutôt au condominium.
Alors curieusement, les Américains, qui dominent quand même le monde dans bien des domaines, sont... on va dire, joue les seconds rôles en foot.
Oui, tout à fait.
Ce qui n'a pas, d'ailleurs pas le foot, d'ailleurs.
Parce qu'en fait, c'est dans le Commonwealth que les Britanniques ont eu le plus de mal. Les pays du Commonwealth ont développé leurs sports nationaux. Les États-Unis ont développé le basketball, le football dit américain, qui n'a rien à voir avec le football, qu'ils appellent eux-mêmes soccer. Et en fait, les émigrés qui arrivaient aux États-Unis adoptaient, comme tous les gens qui émigrent, ils adoptent les sports nationaux. Ils délaissent le sport dont ils viennent. Et ce qui change aux États-Unis, où les États-Unis se mettent un petit peu au football aujourd'hui, de par les femmes, le football féminin est très développé, de par les teenagers qui trouvent que les équipements sont moins chers et que c'est moins dangereux que le football américain, et de par l'émigration latino-américaine qui garde et sa langue et son sport. Et donc, autant les vagues d'immigration européenne avaient abandonné le football pour se mettre au sport nationaux américain, autant les Chicanos, eux, gardent la maîtrise de l'espagnol et la pratique du football.
Et puis encore, un grand pays qui ne brille pas par le foot, c'est la Chine qui veut
rebondir. Ah, ça va changer.
Ça va changer.
Ça va changer pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le développement économique de la Chine lui permet de s'intéresser au football. D'autre part, le président actuel Xi Jinping est un fan de football. C'est un fan, un mordu de football. Et donc, il veut développer ce sport. Il considère que la Chine ne peut pas prétendre au rôle numéro un de puissance mondiale et en même temps d'être puissance X en football, de n'être pas qualifié, d'avoir été qualifié une seule fois. Donc, probablement, la Chine sera candidate pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 ou 2030. Et donc, il développe le football en Chine et les grands patrons, les patrons des grandes entreprises, par goût personnel et en même temps pour se faire bien voir de Xi Jinping, mettre de l'argent dans le football. Et aujourd'hui, les plus gros salaires commencent à n'être plus en Europe, mais en Chine. Et on voit un exode de gens qui gagnent mieux leur vie comme footballeurs en Chine qu'en Europe, alors que l'Europe était censée être l'Eldorado du football.
Alors, Alexandre, vous êtes argentin. Il reste quand même l'Argentine hein, à la surface du globe et le Brésil, tout de même.
Bien sûr. Et puis l'Afrique qui monte et qui va sans doute un jour jouer les premiers rôles. La force quand même de l'Europe, c'est la richesse des clubs européens qui leur permettent d'attirer les meilleurs joueurs du monde entier et qui permettent à l'Europe de conserver quand même cette suprématie.
Alors on va revenir à l'Euro 2016, quels en sont les enjeux? François Hollande, le 29 mars dernier, à l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, résumait assez bien ces enjeux pour la France.
Un grand événement parce que nous allons recevoir des millions de personnes autour d'une compétition de très haut niveau. C'est un grand événement parce que c'est un enjeu sportif, mais nous avons voulu en faire un enjeu culturel, social, économique et d'une certaine façon politique, au meilleur sens du terme. C'est-à-dire un enjeu de rassemblement, d'unité, de respect, de tolérance et dans le contexte que nous connaissons aussi une forme de réponse à la haine.
Il n'est pas dans la même zone géopolitique que la France et pourtant le défi numéro un des Jeux de Rio, c'est le terrorisme. Avec un déploiement policier à peu près comparable au déploiement qu'il y aura lieu en France. Que cherchent les terroristes? La visibilité, la médiatisation. Ils cherchent pas le pouvoir, ils cherchent à faire parler d'eux. Et quand vous avez un événement qui est regardé par des milliards de personnes à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les stades, etc., ça attire l'attention. Et donc, je dirais que même si l'Euro avait été organisé en Andorre ou au Liechtenstein, il y aurait eu les mêmes défis sécuritaires.
Sabine Klopper, pour la France, c'était pas possible de reculer, d'annuler un pareil événement, c'était pas possible, inimaginable.
Oui, et je suis sûr que les autorités ont souvent pensé que ce serait bon si on pouvait annuler l'Euro ici, parce que les difficultés qui viennent avec sont énormes. C'est vrai que je ne me peux pas souvenir en tournoi comme ça dans le soir.
Alors, Alexandre Valente, dans la préparation de l'Euro, là, ça a démarré depuis quelques heures, quelques jours. On a davantage parlé de la sécurité, des mesures qu'on allait prendre dans tous les sens, plutôt que de foot et de qui allait gagner. On a même oublié de faire des paris tellement les enjeux de sécurité importants.
Oui, je pense que les vrais amateurs de football songent depuis un bon moment à ce que va être la compétition sur le plan sportif. Mais c'est vrai que les grands médias ont beaucoup focalisé sur la sécurité. Cela dit, peut-être il n'y a pas eu un euro aussi troublé par ces genres de débats. Je me rappelle quand même les Jeux Olympiques de 2012 qui ont été parmi les plus beaux organisés dans l'histoire, ont été également la cible d'une menace terroriste importante et pourtant tout s'est bien passé.
Alors je reviens un instant, Pascal Boniface, sur ces mesures de sécurité, elles sont inouïes. 90 000 personnes mobilisées sur les stades, dans les fan zones. Les fan zones, faut expliquer en deux mots. Peut-être Alexandre Van, les fan zones en deux mots, c'est quoi?
Bah, c'est quelque chose qui a été créé assez récemment et qui permet d'offrir aux supporters qui ne peuvent pas aller au stade un lieu relativement sécurisé où ils pourront voir les matchs dans des conditions confortables avec des écrans géants sans déranger le reste de la population et sans être non plus sous une menace permanente.
Il y en a un dans chaque grande ville où il y a un stade, et à Paris notamment, c'est sous la Tour Eiffel.
Absolument, ce sont des endroits qui seront quand même fortement sécurisés. Hein. On ne peut pas entrer comme dans un moulin, il y aura des accès contrôlés. Donc à mon avis, ce sera des lieux quand même relativement sûrs par rapport aux terrasses ou aux habituels lieux de rassemblement qu'on trouvera en ville.
Tout ce qu'on peut faire, on l'a fait, Pascal Boniface, en matière de gestion prévisionnelle du terrorisme, des risques du terrorisme.
Je pense que Bernard Cazeneuve a eu la bonne formule lorsqu'il a dit... Le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a dit, si on prend zéro précaution, il y a 100% de risque, mais si on prend 100% de précaution, il n'y a pas zéro risque. On n'est pas dans un monde où il n'y a aucun risque. Donc, effectivement, personne ne peut dire que tout se passera bien, qu'il n'y aura aucun attentat. Toutes les précautions ont été prises, mais de toute façon, nous devons tous vivre avec le fait qu'il peut y avoir un attentat en sortant de ce studio, en montant dans un taxi, dans un bus, dans le métro, etc. Le débat qui a eu lieu sur les fan zones me paraît un peu inepte. On peut aussi facilement sécuriser une fan zone qu'un stade. Et si on ne l'avait pas fait, autant dire adieu à la candidature des Jeux de 2024. C'est aussi un test de la capacité de la France à la fois d'organiser et de recevoir. Sur les 2 500 000 billets pour les 51 matchs qui vont avoir lieu, 1 500 000 ont été achetés par les étrangers. Donc c'est vraiment un test important et je crois que au-delà du message, c'est de dire nous n'avons pas peur, nous allons, il y a eu les attentats du 13 novembre et du 7 et 9 janvier, mais nous allons néanmoins organiser des événements. Sinon alors il faut interdire les restaurants, il faut interdire les salles de spectacle, il faut plus sortir de chez soi.
Alors bien évidemment, tout a été conçu, tout a été prévu. Il y a quand même des risques que on a peur cette fête soit pas aussi populaire qu'on puisse l'espérer.
Bah, disons que le climat social et la météo jusqu'à récemment ne portaient pas vraiment. Il y a une morosité quand même. Bon, de plus en plus, les gens se mobilisent juste au début de la compétition. Avant, regardez au Brésil, jusqu'au début du coup d'envoi du Mondial, il y avait des protestations, des grèves. Le Mondial s'est passé, c'est bien passé, sauf à la fin, en demi-finale, pour le Brésil. Mais les gens étaient contents, etc. Et moi, je suis à peu près persuadé que ça va bien se passer, qu'il va y avoir. C'est ça que donne le foot. C'est qu'on regarde pas le football seul dans le stade ou seul chez soi. Et puis, on verra si l'équipe de France se comporte bien ou pas. Mais je pense qu'il y aura aussi des rencontres. On a un très bon souvenir en France de 98 où différents supporters de pays tout à fait lointains venaient et à deux incidents graves près à Lens et à Marseille se sont bien comportés. C'est ça aussi le football. C'est pas l'agressivité entre les différents supporters qui généralement font la fête avant le match. Et après le match, bah, les vainqueurs consolent les vaincus et puis ça ira mieux la prochaine fois.
Est-ce que la France joue gros? Pascal Boniface le rappelait, la France est candidate pour organiser les Jeux Olympiques en 2024 et l'exposition universelle en 2025. Est-ce que la France joue gros, et c'est un point de vue d'un Britannique, sur cet Euro 2016?
C'est très important pour vous que ça passe bien. La France a la stratégie d'attirer tous les grands événements sportifs, aussi pour projeter le pays. Bon, vous avez un pays magnifique, vous avez tout ce qu'il faut pour organiser un bon tournoi, sauf que, vous savez, les Français sont pas toujours très accueillants. J'espère que pendant cette Euro-ci, on peut montrer qu'on peut être chaleureux.
Il faut bien le souligner. J'espère que ceux qui nous entendent le sauront davantage. Alors le foot, c'était aussi évidemment des millions, peut-être même des milliards de téléspectateurs, et en tout cas des centaines de millions d'euros. Est-ce qu'on peut pas dire que le foot, c'est d'abord du fric et ensuite 22 personnes sur un terrain avec un ballon au milieu?
Vous avez pas tout à fait tort, mais pas pour les compétitions entre nations. Parce que il y a des pays qui sont qualifiés, qui ne sont pas des superpuissances économiques. Et la qualité d'une équipe ne dépend pas du PIB du pays. Alors que pour les clubs, il est vrai qu'arrivé au quart de finale, on retrouve un peu les gros budgets, même si fort heureusement, il y a toujours des surprises possibles. Il faut faire par rapport au poids de l'argent une distinction entre le football des clubs et le football des nations. Et le football des nations reste un sport moins dépendant des ressources financières. Vous avez évoqué tout à l'heure les États-Unis et la Chine. Eh bien, on constate que les trois premiers PIB mondiaux, États-Unis, Chine, Japon, n'ont pas de palmarès en football. Et que des pays qui sont moins importants d'un point de vue économique, eux, ont des palmarès impressionnants. Donc le football entre les compétitions internationales ne sont pas dépendants de l'argent, alors qu'il est vrai que pour les clubs, c'est de plus en plus le cas.
Alors, peut-être que l'argent est un peu moins important dans les compétitions nationales, mais la FIFA, l'UEFA, les grandes instances ont été, tout au cours des derniers mois, des dernières années, minées par une corruption à tous les niveaux et au plus haut niveau.
Oui, c'est clair que la FIFA a un problème à la fois de gouvernance et de transparence et que son importance n'a pas été suivie par une gestion et que cela est très négatif pour le football et que la FIFA doit faire les mêmes efforts que ont fait le CIO auparavant, éclaboussé par le scandale de Salt Lake City, d'attribution des jeux suite à une corruption massive. Le CIO a fait sa perestroïka et a balayé devant sa porte. Il faut que la FIFA fasse également sa perestroïka pour la tous les soupçons. En même temps, on voit très bien avec ce scandale qui a éclaté, il y a 30 ans, le fait qu'il y ait une corruption dans une organisation sportive comme la FIFA n'aurait donné lieu à aucun commentaire. Aujourd'hui, si ça avait été la Fédération des sports de glace, et je pense que, ou la Fédération d'athlétisme, qui ont aussi des choses à se reprocher, qui avaient été atteints, et qu'ils sont en fait, on n'en a pas autant parlé que le football. Et donc on voit l'importance sociétale qu'a pris le football du fait des commentaires. Et il y a un écart, on pense que le football c'est l'argent, mais bien sûr il y a une importance de l'argent dans le football, ça n'a rien à voir avec l'importance dans la société, l'importance médiatique. Il y a une disproportion. Un club comme Barcelone est aussi connu que General Motors ou Pepsi Cola sans avoir le chiffre d'affaires. Donc il y a une visibilité qui est sans commune mesure avec l'argent.
Mais je reviens à ma question, est-ce qu'on n'a pas une trop grande tolérance à l'égard du monde sportif qui est miné par la corruption?
Non,
alors qu'on est très intransigeant à l'égard du personnel politique.
Ah bon? Non, vous rigolez.
Alors,
écoutez, je veux dire, il y a quand même un certain nombre d'élus qui ont quand même mis plus que la main, mais qui ont mis les deux bras dans le pot de confiture. J'en connais quelques-uns, on va pas citer la liste, qui sont toujours au Parlement. Il ne faut pas être dans le déni par rapport à la corruption dans le football, mais en même temps, il est tout à fait anormal de ramener le football au seul facteur de corruption. Mais je pense que c'est une sorte de vengeance de certains sectes qui n'aiment pas trop le sport et le football pour dire le football est corrompu et la politique, elle, serait blanche comme la justice de Kant.
Je ne suis pas allé jusque-là. Alexandre Valland, vous vouliez réagir.
Oui, non, je suis d'accord avec Pascal Boniface. On a tendance à être trop exigeant par rapport au football et on a tendance aussi à oublier tout ce que le football a apporté aux sociétés, notamment à l'Europe, qui évoque le fait que la création des championnats d'Europe des nations ont permis à l'Europe de l'après-guerre d'effacer un petit peu ces frontières qui étaient encore très présentes à l'époque. Je me rappelle avec des clubs comme le Real Madrid, avec le régime franquiste qui tout d'un coup voyageait en France, en Yougoslavie, etc. Ça ouvrait, ça permettait aux habitants, aux supporters de s'ouvrir aux autres.
Et je pense que le football a été le premier adversaire rideau de fer. Il y a eu des compétitions Est-Ouest à un moment où il était impossible de franchir comme individu, comme citoyen, le rideau de fer. La première Coupe d'Europe démarre en 55 et il y a effectivement des matchs entre des clubs de l'Est et des clubs de l'Ouest. Donc ça a permis une première ouverture.
Parce que Boniface, Alexandre Valente et Samuel Koumer, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'euro, de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos. Et on va parler de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Nathanaël Vitran, Nicolas Brousse.
En RDC, le secrétaire général du parti présidentiel émet l'idée d'un référendum pour que Joseph Kabila puisse rester au pouvoir. L'opposition, elle, s'est réunie et exige le départ du président à la fin de son mandat. Qu'en pensez-vous? Juan Gomez vous attend.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone demain, à partir de 8h10 TU.
RFI.
RFI, 18h30 à Paris, midi et demi à Orlando.
Nathanaël Vitran.
L'Amérique en deuil et sous le choc après ce qu'il faut bien qualifier de massacre à Orlando en Floride. C'est même la pire tuerie de l'histoire des États-Unis. 50 morts, 53 blessés dans un club gay. L'auteur de la fusillade a été identifié comme étant Omar Mateen, un citoyen américain d'origine afghane. Une enquête pour terrorisme.
Chez The Book, William Gasparini, que nous retrouvons, qui est professeur à l'université de Strasbourg, qui vient de publier Le football des nations aux publications de la Sorbonne. Il est en ligne de Strasbourg. Merci à France Bleu Alsace. Et enfin, Alexandre Valente, chef du service des sports de RFI. Alors, le foot est-il un élément de construction européenne? On peut se poser la question. On peut en tout cas noter que la création de la première instance européenne, c'est-à-dire la CECA, la Communauté européenne et du charbon et de l'acier, et celle de l'UEFA, l'Union européenne des associations de football, ont vu à peu près le jour en même temps, c'est-à-dire dans les années 50, respectivement 52, 1952 et 1954, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'on connaît Pascal Boniface davantage Cristiano Ronaldo que le premier ministre portugais, voire même le président de la Commission européenne quand ce dernier était portugais. Hein,
Oui, ça c'est clairement, c'est que les footballeurs sont devenus les citoyens du village global qu'est le monde, les plus connus, les plus illustres et les plus populaires parce qu'ils sont moins clivants que les responsables politiques qui, à part peut-être Mandela et quelques autres, le sont généralement. C'est extraordinaire l'importance entre le début du football dont Simon Kemper faisait l'évocation tout à l'heure et aujourd'hui, c'est que n'importe quel enfant dans le monde connaît les plus grandes vedettes du football. Donc il passe très largement les frontières, les transfrontières, et effectivement, c'est lui le premier, comme on le disait tout à l'heure, qui a franchi un peu le mur, le rideau de fer. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un espace public européen à travers le football. On a Erasmus et la Champions League, qui créent un espace commun dans lequel les gens s'identifient et dépassent également les frontières.
Alors, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, à Simon Cooper, les footballeurs sont plus connus que David Cameron ou Boris Johnson, à votre avis?
Bon, chez nous, Cameron et Johnson sont malheureusement très connus. Mais
Ils font beaucoup parler d'eux, c'est vrai, ces temps-ci.
Par contre, les Français les plus connus en Angleterre sont des footballeurs. Cantona, Ginola, Thierry Henry, ils sont beaucoup plus connus que les politiciens ou les acteurs ou tous les autres Français. Et par ces gens-là, par Ginola, par Henry, on a eu une très bonne image des Français chez nous. Alors le foot a créé l'Europe les derniers 50 ans.
On connaît davantage Cantona par exemple que François Hollande. On l'apprécie davantage, semble-t-il.
Oui, Hollande il n'est pas trop connu chez nous.
C'est sûr que lorsque vous avez tout un stade qui chante la Marseillaise, c'est quand même plutôt rare et ça a été plutôt pour Cantona que pour un responsable politique français.
Alors de la porte de l'Euro 2016 à une Europe qui connaît aujourd'hui quelques petits ratés, encore une fois j'ai fait appel à François Hollande qui était dimanche dernier l'invité de nos confrères de France Inter.
Il y a l'idée de l'Europe. On va avoir un Euro 2016 de ce point de vue-là exceptionnel. Au moment où il y a des tensions au sein de cette Europe, à la fois une résurgence de nationalisme, pression sur les frontières, division, même guerre. Il y a eu guerre en Ukraine. On va voir quoi comme équipe? On va voir la Russie et l'Ukraine. On va voir la Turquie qui va être là. On dit ne pas être dans l'Europe, mais elle est quand même dans l'euro. On va avoir des équipes qui, par le poids de l'histoire, vont se rencontrer. On va avoir un match Allemagne. Pologne, Autriche-Hongrie.
Tout est beau dans le football. Écoutez François Hollande qui veut rebondir. Simon Cooper.
C'est vrai que dans le foot, la guerre a vraiment arrêté. Si on pense aux années 80, les matchs France-Allemagne, mais aussi Hollande-Allemagne, Angleterre-Allemagne, étaient des matchs avec des mémoires très fortes de la guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de tensions. Et maintenant, quand France joue contre l'Allemagne, ce sont des amis. Il n'y a aucune tension.
C'est vrai qu'il n'y a aucune tension. On n'a pas entendu encore.
Honnêtement, s'il y avait un Russie-Ukraine de par la qualification de ces deux équipes et que le tableau les amène l'une contre l'autre, l'enjeu sera un peu plus lourd que le simple enjeu sportif. Mais en même temps, ça sera une compétition régulée par un arbitre, délimitée sur un terrain et avec des règles très précises. Et donc, le football ne se joue que entre nations qui ont des relations pacifiques.
Ah ouais.
Il contribue à la pacification des relations entre nations.
William Gasparini, qui nous a rejoint à Strasbourg, est-ce que vous diriez, d'un mot, le football, c'est plutôt l'affrontement ou c'est plutôt la pacification des peuples?
Alors écoutez, moi au titre de sociologue, je pense que c'est les deux. Vous avez cité l'ouvrage que nous avons écrit, Le football des nations, et le sous-titre c'est « Des terrains de jeu aux communautés imaginées ». À savoir que le football crée de la communauté imaginée, aussi bien dans les nations que à travers l'Europe. Par exemple, l'euro donne une image de l'Europe qui, comme l'a dit François Hollande, la Turquie en fait partie, donc la compétition de l'euro, c'est actuellement 55 pays. Enfin, c'était 54, le Kosovo s'est rajouté 55. Donc, ça donne une vision très élargie de l'Europe. Et en même temps, l'euro fait aussi exister de manière imaginaire aussi les nations. Parce que l'euro de football, c'est une confrontation entre des nations. Et on sait aussi que l'Europe libérale tend peut-être à détruire aussi les frontières, tend à créer des euro-régions, etc. Et faire exister les nations à travers le football montre que les nations existent. Et elles incarnent à travers 11 joueurs une nation. Et ça crée aussi des stéréotypes, d'ailleurs, des confrontations pacifiques, évidemment, entre des pays européens. Donc, c'est un système très complexe, quoi.
C'est ce que Jacques Delors appellerait une fédération d'équipes de football de nation, Alexandre Valente.
Oui, mais j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, qui illustre assez bien ce rôle que peut avoir le football de rapprochement. C'est justement le match Argentine-Angleterre au Mondial 86, il y a 30 ans. La guerre des Malouines venait de s'achever, les pays n'avaient pas de relations diplomatiques, beaucoup se demandaient s'il fallait jouer ces matchs, les médias le présentaient d'une manière très belliqueuse, et pourtant ce match a eu lieu, il a été marqué notamment par un but de la main de Maradona qui aurait pu encore mettre le feu aux poudres, et pourtant ce match a été un peu le début du dialogue à nouveau entre l'Angleterre et l'Argentine. Les deux adversaires ont fini par s'apprécier, par se serrer la main, par échanger leurs maillots, et tout ça a permis peut-être de tourner une page.
Alors est-ce qu'il y a une diplomatie du foot parallèle à la diplomatie classique qui veut rebondir Simon Cooper, Pascal de Boniface, Simon Cooper?
Démocratie du foot.
Et non, une diplomatie du foot.
Diplomatie du foot. Oui, quand on voit les Argentins sur le terrain, mais aussi les fans, quand on est là, dans un grand tournoi, il y a beaucoup de fans qui se rencontrent, qui vont boire quelque chose ensemble. Et là, on voit les autres sont aussi des êtres humains. Et ça, c'est un peu sentimental, mais sauf le foot, il n'y a pas beaucoup qui rendent les gens ensemble.
Alors, parce que François Hollande nous disait tout à l'heure qu'il y avait des équipes improbables qui allaient se rencontrer, et à chaque fois qu'il y a l'équipe, il y a le président, le chef d'État du pays qui est là, et donc est-ce qu'il y a des rencontres un petit peu derrière le rideau, derrière l'estrade, derrière les tribunes?
Bien sûr, les deux derniers matchs amicaux.
Diplomatie parallèle.
Lors des deux derniers matchs amicaux contre l'Espagne et l'Allemagne, François Hollande a reçu Angela Merkel, Martino Rajoy, et ça permet, c'est pas des sommets, mais ça permet de faire avancer certains dossiers, d'avoir un contact. Et par rapport à votre question, il faut se rappeler que la première fois qu'un président turc a pu aller en Arménie, c'est à l'occasion d'un match de football, puisque le tirage au sort les avait mis dans la même poule pour la qualification de la Coupe du Monde. Si le président turc s'était rendu en Arménie sans prétexte comme cela, ça aurait été un scandale pour les ultranationalistes turcs. Qui peut lui reprocher d'aller soutenir son équipe nationale et donc de commencer à avoir un peu des contacts, même si pour des raisons qui ne tiennent pas au football, mais à l'évolution notamment de la diplomatie turque, ces premiers contacts fructueux n'ont pas été suivis d'effet. Donc le football, c'est pas une baguette magique. C'est un outil, c'est un instrument qui permet d'établir des contacts, de rapprocher, de faire connaître l'autre. Effectivement, on voit que l'autre n'est pas le diable, que c'est quelqu'un qui supporte l'équipe, avec qui on peut aller boire un coup, avec qui on peut faire la fête, etc. Très souvent, d'ailleurs, un enfant, le premier contact qu'il aura avec l'étranger, ce sera par un joueur de football. Et il va admirer un joueur de football, même s'il n'a pas sa couleur de peau, sa nationalité, sa religion, et il se fout de sa religion ou de sa couleur de peau.
Un mot sur les vignettes Panini, qui ont fait beaucoup pour le développement et la popularisation de l'Europe. On situe un pays sur une carte du monde, parfois, grâce à un joueur de football, là, Alexandre Valente.
Absolument. Et puis, il y a un phénomène des fiertés, bien souvent, qu'incarne le football. On voit par exemple, il y a la Guinée-Bissau qui vient de se qualifier pour la première fois pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une immense fierté pour ces pays qui n'existent pratiquement pas à l'échelle du monde. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde avec l'Algérie qui a réussi un bon parcours et ça a rempli des fiertés les Algériens de par le monde. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a d'énormes diasporas et ces genres d'événements permettent aussi de créer un lien entre tous ces habitants qui sont dispersés dans le monde. C'est très important.
C'est vrai qu'il y a des pays qui ont un peu de mal à exister sur le plan diplomatique ou économique, mais qui ont misé sur le sport et plus encore sur le foot pour avoir une visibilité. C'est par exemple en Europe le cas du Kosovo, William Gasparini.
Oui, c'est le dernier pays qui a intégré l'UEFA, c'est le 55e pays. Et c'est vrai que des petites nations existent aussi à travers le football. Mais je voudrais juste revenir sur l'exemple que vous avez donné avant sur les autocollants Panini. C'est vrai que depuis 1960, depuis qu'on a créé ces autocollants, ils ont été diffusés dans toute l'Europe et beaucoup de jeunes Européens ont connu des joueurs, mais des pays européens à travers ces autocollants. Et à travers mes enquêtes que je réalise dans les banlieues, par exemple, on voit que souvent des jeunes de banlieue en France notamment, connaissent l'euro à travers l'UEFA. Et pour eux, la Turquie, c'est l'Europe. Pour eux, la Russie, c'est l'Europe à travers la Ligue des Champions. Notamment, on voit un match, on voit des équipes russes, par exemple, à Moscou. Et la Russie, Israël, fait partie de l'Europe. Donc ça crée une image. Mais en même temps, j'ai fait une enquête auprès des députés européens à Strasbourg et j'ai vu que beaucoup de députés européens qui s'intéressent au football me disent « j'ai appréhendé l'Europe quand j'étais jeune, grâce au club de football. Et ma vision politique de l'Europe n'est intervenue que bien plus tard. » Donc on voit qu'à toutes les échelles sociales, il y a une connaissance de l'Europe à travers le football.
Simon Cooper, on peut noter que l'euro de foot s'est lui aussi élargi en passant de 16 à 24 équipes et qu'il y a 54 pays membres de l'UEFA, comme le disait tout à l'heure William Gasparini, alors qu'il y a 28 membres de l'Union Européenne, 47 pour le Conseil de l'Europe. Alors je pose la question à un Britannique qui est susceptible de quitter l'Union Européenne, mais qui restera dans tous les cas dans l'UEFA, en tout cas je l'imagine. L'Europe du foot, c'est une vision de la grande Europe un peu.
L'Europe du foot, c'est l'Europe réussie, parce que dans le foot, nous les Européens sommes les numéro un du monde, et nous précisément les Européens de l'Ouest, parce que nous avons gagné les trois dernières Coupes du Monde, nous avons tous les grands clubs, nous avons une Europe intégrée dans le foot, le Barcelone qui joue contre Chelsea, qui joue contre Paris Saint-Germain, et tout le monde s'en fout un peu des frontières. Si l'Europe politique était comme l'Europe du foot, on serait beaucoup plus heureux.
Il n'y aurait pas de référendum le 23 juin, le Brexit, on n'aurait même pas inventé le mot, pratiquement, on peut l'imaginer.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
On va poursuivre avec cette idée, le foot, facteur d'affrontement ou de pacification, en faisant un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Corentin Pénard-Gaillard.
Bonjour Daniel.
Il y a au moins un pays, ou plutôt une nation en Europe, pour lequel le football a été un élément pacificateur, et c'est l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, longtemps marquée par la guerre entre les protestants et les catholiques.
Et oui, c'est un jour important aujourd'hui pour l'Irlande du Nord, puisqu'elle joue son premier match de l'histoire de l'Euro. Alors d'après The Irish Times, ce match face à la Pologne, c'est le symbole de la renaissance du pays. Parce qu'on le sait, l'Irlande du Nord et Belfast en particulier ont été pendant des décennies le centre de tensions communautaires et religieuses entre d'un côté les catholiques nationalistes et de l'autre les protestants loyaux à la Grande-Bretagne. Et comme le raconte The Irish Times, la violence de ce conflit, elle ressortait en particulier dans un domaine, le sport national, c'est-à-dire le foot. En fait, les stades étaient devenus à une époque des défouloirs où les communautés pouvaient s'affronter et afficher leurs différences, même pendant les matchs de l'équipe nationale. Du coup, à partir des années 90, les autorités ont beaucoup misé sur la pacification des stades et surtout des tribunes pour rassembler les communautés et donner ne serait-ce qu'une image d'unité du pays.
Alors, Corentin, comment ça s'est concrètement passé ?
Alors tout d'abord, c'est passé par les chants de supporters qui sont maintenant focalisés sur l'Irlande du Nord et non plus sur le conflit sectaire. On a aussi créé ce qu'on appelle la Green and White Army. C'est le groupe de fans officiel de l'équipe d'Irlande du Nord qui regroupe tous les bords. Et enfin, les autorités ont encouragé tous les supporters à porter du vert et du blanc, les couleurs nationales, plutôt que le blanc, rouge, bleu qu'on voyait beaucoup en tribune, les couleurs du Royaume-Uni. Alors au final, toutes ces actions, elles ont apaisé le monde du football. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'équipe d'Irlande du Nord, on voit aussi bien des catholiques que des protestants, sans que ça pose aucun problème, d'après The Irish Times. Et tout ça, eh bien, ça reflète une société bien moins clivée qu'il y a une quinzaine d'années. Reste à voir maintenant ce qui se passera en cas de rencontre avec la République d'Irlande, puisque tous les deux participent à l'euro. Mais bon, on a encore un peu de temps, puisque pour ça, il faudrait que les deux aillent au moins en quart de finale. on a le temps de voir.
Merci Corentin, Courrier International, l'Hebdo et Courrier International.com. Alors évidemment, pour que on voit l'Irlande contre l'Irlande, l'Irlande du Nord contre la République irlandaise, donc il faudrait quand même qu'il se passe un certain nombre de choses positives pour les deux pays, sachant que les catholiques irlandais du Nord, ceux de Belfast, ont longtemps soutenu l'équipe de la République d'Irlande, capitale Dublin, Simon Cooper.
Oui, et ça existe toujours, et même pendant ce Euro aussi, je pense que la majorité des catholiques du Nord vont soutenir l'équipe de la République, oui. Et les protestants de la République du Nord, ils soutiennent aussi l'équipe d'Angleterre. Alors c'est toujours un peu compliqué, même si c'est vrai que c'est apaisé.
Vous avez tout dit, l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est toujours un petit peu compliqué. D'ailleurs, il n'y a pas d'équipe du Royaume-Uni, on peut le souligner, ça n'existe pas. Par contre, il y a trois équipes qui représentent le Royaume-Uni. On peut les citer, enfin, il y en a même plus, trois qui ont été sélectionnés en tout cas, Simon Cooper.
Sont qualifiés. Oui, le Pays de Galles sera aussi là. C'est un très petit pays, on ne connaît que par le rugby et par le foot, 1,5 million d'habitants. Mais ils ont Gareth Bale, un des joueurs les plus connus, les plus forts du monde.
Donc il y aura l'Irlande du Nord, et tout de même, je sais pas qui veut rebondir, pas l'Écosse.
Le premier match international de l'histoire a été en Angleterre-Écosse. Et c'est les matchs les plus disputés et qui suscitent le plus d'antagonisme, puisque le but des Écossais, c'est que l'Angleterre perde. Alors par contre, aux Jeux Olympiques, il n'y a une seule équipe du Royaume-Uni, parce que là, l'équipe est mélangée. Et aux Jeux de Londres, il y avait une équipe du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, alors que pour l'UEFA, il y a effectivement ces quatre fédérations.
C'est un peu curieux, Alexandre Valent. Donc, il y aura une équipe d'Angleterre, quand même, faut le dire.
Et elle compte. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça dans le football. Et d'ailleurs, on aura un choc. Un des matchs les plus attrayants de ce premier tour sera Angleterre-Pays de Galles. Donc, c'est une affiche dont on est habitué dans le monde du rugby, mais pour le football, c'est une première dans une compétition internationale, et je pense que ça va être un très grand moment à Lens dans les tribunes.
C'est ce qu'on appelle un derby délocalisé, c'est ça? Non, on pourrait employer ce terme, non?
Oui, effectivement. Oui.
Alors, à l'inverse, on a pu le constater lors du dernier mondial de foot, l'équipe de Bosnie-Herzégovine n'a pas été l'équipe de toute la Bosnie-Herzégovine. Elle n'a été soutenue que par les Bosniaques musulmans et pas par les Serbes de Bosnie, Pascal.
Non, qui eux soutiennent, d'ailleurs ils veulent se séparer de la Bosnie-Herzégovine, ils veulent être indépendants, ils le réclament depuis longtemps, et donc eux ils soutiennent l'équipe de Serbie, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a quand même un très fort processus d'identification nationale entre l'équipe et vous avez des cas où, par exemple en 2002, lorsque l'équipe turque avait atteint le stade des demi-finales, l'ensemble du pays, y compris dans le Kurdistan, soutenait l'équipe nationale. Et puis, il y a des cas où les irrédentismes sont trop forts, et vu l'antagonisme et le manque d'unité de ce pays, la Bosnie, avec une équipe qui s'est très bien comportée ces derniers temps, effectivement, la minorité serbe, elle regarde plutôt du côté de la Serbie, auquel elle voudrait être rattachée nationalement, et dont elle soutient logiquement l'équipe nationale de football.
William Gasparini, est-ce qu'on peut dire que les équipes sont le reflet des nations et des pays, très métissés en France et je crois aussi en Angleterre, évidemment tout blanc en Pologne, et quelque part, est-ce que ça ne nous donne pas deux visions de l'Europe?
Alors c'est vrai que la composition des équipes européennes nous montre toutes les traditions d'immigration, l'histoire de l'immigration de ces pays, et effectivement, parmi ces pays, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les Pays-Bas, l'Allemagne, qui donne à voir des nations très multiculturelles, métissées. Donc c'est tout en raccourci à travers les 11 joueurs, c'est toute l'histoire de l'immigration de ces différents pays, et dans d'autres pays, effectivement la Pologne ou l'Italie, pays d'immigration plus tardive, on voit moins ce multiculturalisme qui se montre. Donc c'est vrai que c'est en quelque sorte une image des pays et de l'histoire de chacune des nations, puisque c'est des pays qui ont été construits économiquement aussi grâce à l'immigration. En France, il y a eu trois grandes vagues d'immigration, et en 98, on a d'ailleurs dit que l'équipe de 98 reflétait parfaitement les différentes vagues d'immigration qui ont construit la France.
La fameuse équipe Black-Blanc-Beur, Pascal Benissimo, vous vouliez réagir?
Oui, enfin pour l'Allemagne, c'est plus récent, parce que l'Allemagne a changé sa loi sur la nationalité à la fin du XXe siècle, en 99 ou 2000. Certains d'ailleurs disaient comme argument pour changer la loi que l'équipe de France montrait que le multiculturalisme était une réussite. Et donc on a changé le droit droit du sol pour le droit du sang, enfin le droit du sang au lieu du droit du sol. Enfin, on a changé, on a abandonné le droit du sang pour avoir le droit du sol. Et donc, on a effectivement des gens d'ascendance immigrée qui sont venus dans l'équipe d'Allemagne, alors que jusqu'à cette époque, l'Allemagne était faite de grands blonds aux yeux bleus, assez costauds. Et le phénomène le plus récent, c'est la Suisse, qui, du fait des guerres balkaniques, a eu aussi beaucoup d'immigration. Et l'équipe suisse est aujourd'hui très multiculturelle,
alors qu'elle n'était pas...
De Bosniaques, etc. Et, donc, et puis, bon, on a bien sûr l'exemple d'Ibrahimovic, qui joue en Suède, et alors qu'il vient des Balkans lui aussi.
J'étais très surpris d'apprendre qu'il était suédois. J'étais parmi probablement un des derniers à l'apprendre. Alors, Alexandre Valen, un mot sur les supporters, car il n'y aurait pas de foot sans les supporters. Ils sont plus nationalistes que la moyenne nationale, les hooligans plus racistes, plus homophobes que le reste de la nation.
Pas vraiment. Je pense qu'au contraire, que le football, quelque part, incarne un peu ce qui reste de la méritocratie qui a tendance à disparaître dans nos sociétés modernes. C'est dans des pays où les immigrés ou les fils d'immigrés ont parfois du mal à se faire une place, le football est un accélérateur et souvent est un ascenseur social, alors que ce n'est plus le cas pour les populations d'origine, on peut dire. Et les supporters s'identifient aussi plus ou moins à cette équipe dans la mesure où elle reflète un petit peu la richesse de cette société. Je pense qu'une équipe de France qui serait totalement blanche aurait beaucoup plus de mal à devenir populaire dans les banlieues ou dans certains secteurs, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même une équipe, malgré parfois des polémiques récentes, qui reflète assez bien la richesse de la France à ce niveau-là.
Samuel Cooper, le football, c'est plutôt un facteur d'affrontement, de pacification entre les peuples. Après tout, quand on est quand il y a un match France-Allemagne, quand on est pour l'Allemagne, on est contre la France, et vice-versa.
J'ai été France-Allemagne en novembre, la nuit du 13 novembre, et c'était un match, si on regarde que le foot, c'était un match glorieux, la France a très bien joué. Après, on a eu les attentats, même pendant le match. Et après, les joueurs français sont restés avec les Allemands qui pourraient pas sortir du stade.
Mais le 13 novembre, c'est un jour bien particulier dans l'histoire de France.
Oui, c'est un jour très particulier. Mais on a vu là, l'ancien ennemi, c'était l'Allemagne, qui est maintenant un ami. Et le nouveau ennemi, c'est pas un autre nation européen.
Pascal Boniface, est-ce qu'on peut devenir plus européen par le football?
Mais on l'est déjà, parce qu'une fois encore, le football a beaucoup contribué à faire tomber les frontières, non seulement physiques, mais également mentales, en montrant que, et on a besoin de l'autre. Un match entre deux nations, bien sûr, il faut gagner, donc battre l'autre, mais s'il n'est pas là, il n'y a pas d'opposition. Donc l'autre n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. C'est comme ça qu'il faut voir les choses généralement. Et puis l'avantage de ce type d'affrontement, outre le fait qu'il est régulé, c'est qu'il n'est pas définitif. Chacun se remet, on a tous connu les uns et les autres de grandes humiliations, que l'on soit anglais, français ou argentin, et on s'en remet parce qu'on espère que la fois d'après, ça ira mieux. On remet le titre en jeu, ou on espère, nous on a eu quand même l'Afrique du Sud, et puis depuis ça va nettement mieux. Donc voilà, on peut toujours espérer avec le football.
Ça veut dire que, il y a toujours une troisième mi-temps pour se réconcilier, c'est un peu l'idée.
Exactement, et presque tout le monde sait que c'est que un jeu. C'est pas important. Si on perd contre l'Argentine, si la France perd contre l'Allemagne, c'est un jeu. Et tout le monde comprend le matin après que, bon, c'est pas grave.
Quand même, non.
Alessandro, vous qui êtes argentin, vous avez connu l'Europe à travers la géographie, l'expérience démocratique de l'Europe ou par ses joueurs de football?
Bah, un petit peu comme tout le monde, par le football. D'abord, hein, à l'époque, il n'y avait pas les télévisions numériques, ni la diffusion des matchs qu'on connaît aujourd'hui. Mais pourtant, par la presse, etc., on suivait les grands clubs, on savait qu'il y avait des Argentins qui allaient jouer au Real Madrid ou ailleurs, on s'y intéressait. Et tout ça aidait beaucoup à construire une vision du monde qui était plutôt ouverte et qui était plutôt tournée vers l'affrontement pacifique.
Alors Pascal, reste cette grande question pour conclure cette émission. L'Euro de football 2016 sera-t-il une parenthèse joyeuse dans une Europe secouée de crises et de menaces?
Oui, ça va mettre un peu un sourire aux gens. Les gens vont aller faire la fête, vont célébrer ça ensemble, etc. Bien sûr, ça ne va pas résoudre le problème des réfugiés, le problème du chômage, etc. Mais ça sera une parenthèse agréable, un moment agréable. agréable, un moment de fraternité, de joie collective et de célébration commune. Et donc finalement, il ne faut pas bouder son plaisir, de même que lorsque l'on voit un beau film ou qu'on va à un bel opéra, on se dit que ça ne va pas résoudre tous les problèmes et que c'est un moment agréable. Une compétition qui dure sur un mois et qui ramène autant de gens, qui met autant de gens ensemble, eh bien franchement, ça fait du bien.
Et son c'est évidemment un Euro 2016 que l'on va pouvoir suivre sur RFI, en deux mots.
Absolument, avec 13 matchs en intégral, dont ceux de l'équipe de France, et évidemment des grands rendez-vous comme Radio Foot International et les journaux.
Ça, c'est
de
tous
sport,
les jours du lundi au vendredi.
Tous les jours de lundi au vendredi. Donc, il y aura une couverture très importante également sur le site internet du RFI. Donc, évidemment, nous invitons tous les auditeurs à nous suivre pendant ce mois magique.
Eh bien, nous le ferons. Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Victor Ouvra. Merci à France Bleu Alsace d'avoir accueilli William Gasparini. Pour écouter cette émission, RFI.fr ou les applis mobiles mais gratuites de RFI. Plus d'infos sur nos invités, la publication de leurs livres sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI. On reste en contact via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Paris, ailleurs, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'euro, de l'Europe et du monde. Au revoir.
Autour de la question.
Cette semaine, Antonio Fischetti s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité.
Demain.
Que raconte le chant des oiseaux? Les scientifiques tentent de les décrypter et les compositeurs s'en inspirent. Découvrons ces musiques de la nature en compagnie d'un spécialiste.
Autour de la question. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.
Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris, où il est maintenant 19h.
Édition spéciale. François Bernard.
Bonsoir à tous. L'actualité de ce dimanche 12 juin est dominée par la fusillade dans la ville d'Orlando, en Floride, aux États-Unis, où au moins 50 personnes ont été tuées et 53 autres ont été blessées par un homme armé qui a attaqué une discothèque.